soir, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme accuse les autorités de la RDC d'armer une milice dénommée Banamura qui mène des attaques contre les civils des communautés Luba et Lulua dans les Kasaï. Il l'a dit hier à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Zaid Rad El Hussein affirme que cette milice soutiendrait les autorités dans la lutte contre la rébellion des Kamuina Nsapu. En réaction, le porte-parole du gouvernement note qu'il est inconcevable qu'un gouvernement qui dispose d'une armée et d'une police puisse organiser une milice pour mater une rébellion. Quel est le tir faire de ces différentes déclarations? C'est la question du débat et nous en parlons avec Maître Guillaume Mangiolo. Il est secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Maître Guillaume Mangiolo.
Bonsoir Guy Maté.
Hilda Sayer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Bonsoir Madame Hilda Sayer.
Bonsoir.
Et Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Bonsoir Monsieur Timothée Chaombo Soucha.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme accuse les autorités de la RDC d'armer une milice menant des attaques contre les civils dans les Kasaï. Propos tenus ce mardi à Genève, en Suisse, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les détails avec Noëlla Luzitu.
Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réuni à Genève, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zaid Rad Al Hussein, a déclaré, je cite, « Je suis consterné par la création et l'armement d'une milice, Banamura, qui soutiendrait les autorités dans la lutte contre la rébellion Kamuina Nsapu, mais qui a mené des attaques horribles contre des civils des groupes ethniques Luba et Lulua. » Un porte-parole de l'ONU a indiqué à l'agence France-Presse qu'il n'était pas clair quelles étaient les autorités congolaises qui avaient apporté leur soutien à cette milice. D'après l'ONU, de nombreuses victimes et des témoins ont déclaré que la milice était organisée et armée par les autorités locales. Les victimes ont également signalé que des membres des unités locales de l'armée et de la police congolaise, ainsi que des chefs traditionnels, étaient présents lors des attaques de Banamura et ont déclaré que des agents de l'État étaient impliqués dans l'armement et la direction de la milice. Le haut-commissaire a, pour ce faire, redemandé l'ouverture d'une enquête internationale, alors que le Conseil des droits de l'homme devrait se prononcer jeudi ou vendredi prochain sur un projet de résolution en ce sens à la demande de l'Union européenne. En effet, alarmé par les rapports faisant état d'atrocités, étant donné les difficultés d'accès pour aller dans le Kasaï, le haut-commissaire a décidé la semaine dernière, je vous le rappelle, d'envoyer dans la région une équipe d'enquêteurs pour rencontrer des réfugiés ayant fui les violences.
Merci Noëlla Luzitu. En réaction, le porte-parole du gouvernement note qu'il est inconcevable qu'un gouvernement qui dispose d'une armée et d'une police puisse organiser une milice pour mater une rébellion. Lambert Mende pense que le responsable onusien a été abusé par des sources malveillantes. Maître Guillaume Mangiolo, secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens, vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. Et comment vous réagissez à cette accusation du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui affirme que la RDC entretient une milice dénommée Banamura qui mène des attaques contre les civils dans les Kasaï.
Merci Monsieur Guématé. En fait, la grande difficulté par rapport à ce qui est dit là, c'est que je parle en tant qu'associant kasaïen. Je suis concerné personnellement. Il me semble que je suis passé sur vos plateaux pour parler de la situation qui prévalait dans l'espace kasaï. Et déjà, dans cette affirmation ici, ça pose un problème parce que tous les Kasaï sont composés des Luba et des Baluba. Il n'y a pas d'ethnie Luba qui soit venue d'ailleurs, quoi que ce soit, ça ne tient pas la route. C'est ça le premier aspect qu'il faut devoir faire remarquer. Les Kasaï sont composés, en tout cas les Kasaï centrales, les Kasaï orientales, sont composés majoritairement des Baluba et des Luluwa.
Là, on parle de l'espace kasaïen.
Oui, l'espace kasaï. Je vous cite, puisque au fait, quand on parle de Baluba et Lua, ils sont situés où, et y compris de l'Omami. D'accord? C'est-à-dire que la majorité de la population qui habite dans l'espace kasaï, notamment les kasaï centrales et kasaï orientales, sont Baluba. Ok? premier élément pour présenter à ceux qui veulent faire quelque chose, cette nature-là et tout ça, au moins de prendre des bons éléments, si on veut, comment dirais-je, parfaire en fait une démarche à la limite démagogique, utiliser les bons termes.
Et donc, les accusations du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ne sont pas fondées.
Mais ça pose un problème déjà par rapport à la cible visée. Je vous cite parce que je suis du Kassai central. Au Kassai central, on a 5 territoires. On a Gibaya, on a Luisa, on a Kazumba, on a Dimbelenge, on a Ndemba et Kananga, le centre. Gibaya, ce sont des Lulua. Demba, Lulua. Dimbelenge, Lulua. Les trois quarts des Kazumba sont Lulua. Dans la moindre mesure, une petite partie au niveau de Luisa, il y a aussi une partie des Lulua. Et des Baluba qui sont frontières avec Mweneditu. Je souhaitais comprendre un peu les Baluba et les Lulua qui sont visés par les pouvoirs pour être éliminés, parce qu'ici on parle d'un génocide, parce qu'on vise une population précise. Ils seraient dans quel espace en question? Donc, dans un premier temps, ils doivent être minoritaires. Mais si vous considérez qu'effectivement cet espace-là est composé de plus ou moins 5 ou 10 millions d'habitants qui sont tous de la même ethnie, ça pose un problème de crédibilité quand on présente ce genre de choses.
Et cette milice Banamura?
Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut porter à la connaissance des gens, c'est quoi Moura? Moura, c'est juste un endroit où on va former les gens, comme il y a Kitona, comme il y a tout un tas de structures qui forment les militaires en RDC. Alors, ceux qui sortent de là, on les appelle les Banamoura parce qu'ils ont été formés à cet endroit-là. Et par conséquent, on les trouve aujourd'hui, pour l'essentiel, au niveau de la garde présidentielle. Bon, une armée qui est composée notamment des Moura, parce qu'ils ont été formés là-bas, comme il y a des anciens de Kitona, des Lefo, des peu partout, des Kamina. Quel est le problème? C'est quoi cette appellation fantaisiste? Est-ce qu'il y a des problèmes au Kassai ou non? Si, il y a des problèmes au Kassai. Je l'avoue, il y a des problèmes au Kassai. Et les Kamina en Sapo, est-ce qu'ont-ils sévi au Kassai? Bien entendu. Y a-t-il des meurtres au Kassai? Tout à fait, des assassinats, oui. Causés par qui? Par ces les miliciens supposés Kamuina Nsapu, estampillés. Ils ne sont même pas Kamuina Nsapu, puisque la famille Kamuina Nsapu n'a pas accepté ces gens-là comme étant des leurs. Ce sont des criminels. Et en l'espèce, nous on a vécu ça à Luisa, je suis en train de vivre ça à Luisa. J'ai un cousin personnel, je l'avais dit ici parce que c'est déclaré, c'est connu et tout ça, y compris les gens de l'ONU le savent, qui a été décapité en tant que policier. Et il y a des entités entières, des groupements entiers, je peux le citer, parce qu'ici on est dans des considérations tout à fait fantaisistes et qui englobent un peu tout. Je vous cite de manière précise, précise. Lorsque vous êtes à la frontière avec l'Angola, là c'est chez moi, et que personne ne peut me le contester. Vous êtes à la frontière avec l'Angola dans le territoire de Luisa, où il n'y a pas les Lulua, il n'y a pas les Baluba, dans cette partie-là. Les supposés criminels comme Kamuina Nsapu sont entrés à partir de Kazumba.
Et la milice Banamura n'est pas en train de sévir dans ces coins de la République?
Mais c'est où ça? Comme ils disent l'endroit exact.
Maître Majolo, c'est basant sur le témoignage des personnes qui ont fui l'insécurité. Monsieur Zaïd El Hussein affirme, je cite, les réfugiés de plusieurs villages du territoire de Kamuina ont indiqué que les Banamura ont, au cours des 2 derniers mois, tué, mutilé et brûlé à mort des centaines de villageois et ont détruit des villages entiers. Pourquoi c'est dans ces différents témoignages ces termes Banamura revient?
Mais oui, mais c'est ce qui est paradoxal, puisque vous dites Kamuina, et là on est dans des territoires quasiment du côté des Tchoukapa qui n'a rien à voir avec les Baluba et avec les Lulua. C'est déjà un problème. Parce que ce que vous visez, soi-disant, qui sont aujourd'hui martyrisés et poursuivis, ce ne sont même pas ceux-là. Mais est-ce qu'il s'est passé des choses à Tchoukapa? Bien entendu, il s'est passé des choses à Tchoukapa. Par les fêtes de qui? Effectivement, par les fêtes des miliciens. Mais est-ce qu'il s'est passé aussi des choses au niveau de notre armée? Oui ou non? Bien entendu. Bien entendu qu'au sein de l'armée, il y a des gens qui sont mal comportés. D'ailleurs, il y a une série de procès qui sont en cours. Les livres blancs sur les phénomènes comme Kamuina Nsapu qui viennent de sortir épinglent nommément une série des militaires ou des policiers qui seraient impliqués éventuellement dans ces types d'exactions. Mais ce n'est pas une structuration étatique pour aller martyriser ou éliminer une population. C'est-à-dire que ces termes-là sous-tendent quoi? Ça sous-tend un génocide. Un génocide. On vise de manière expresse une population par rapport à l'ethnie considérée. Ça pose un problème de crédibilité. Lorsqu'il faut avancer les choses, qu'on fasse un petit effort.
Maître Majolo, il y a même la société civile de Kananga qui a confirmé cette information, qui a évoqué même les exactions commises par ces fameux Banamura.
Non. Non, on peut pas dire les choses en termes.
Du Kassai plutôt,
non,
la société civile Kassai.
Oui, la société civile Kassai dit ceci. Dans l'armée, et je l'ai dit aussi ici sur votre plateau, c'est pas des choses à cacher parce que ça existe.
au sein des forces armées et des polices, il s'est avéré des gens qui ont eu un mauvais comportement, comme toutes les armées commettent des crimes en temps de guerre ou en temps des répressions quelconques, tout ça. Ça arrive et ça doit être poursuivi. Ça doit être poursuivi sans état d'âme. Mais qu'un état organise, une élimination physique pour faire disparaître une population d'un espace quelconque et tout ça, c'est extrêmement grave d'avoir ce genre de choses.
Vous ne pensez pas que toutes ces accusations contre la RDC confortent la communauté internationale dans sa quête, n'est-ce pas, des créations d'une enquête internationale, étant donné que les enquêtes en cours semblent ne pas suffire pour améliorer la situation sécuritaire dans cette partie du pays?
Vous savez, ce qui est extraordinaire aussi par ailleurs, c'est quoi, ce que nous avons la MONUSCO ici installée depuis quasiment 20 ans. Et donc la communauté internationale est sur place. La MONUSCO est partout. Est-ce que la MONUSCO n'est pas au Kasaï? Elle est au Kasaï. Est-ce qu'elle n'accompagne pas l'armée? Elle accompagne l'armée. Est-ce qu'elle ne peut pas faire déjà une première enquête pour dire qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les rapports de la MONUSCO aujourd'hui par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas?
Merci Hilda Sayer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Comment vous comprenez les accusations du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme contre les gouvernements congolais?
Donc, les nouvelles témoignages dont le haut commissaire des droits de l'homme a rapporté hier au Conseil des droits de l'homme montrent que la situation dans la région de Kasaï est devenue encore plus complexe et que les attaques horrifiques se poursuivent au Kasaï. C'est déjà une zone où, selon l'Église catholique, hier, plus de 3300 personnes ont été tuées depuis août. Il y a au moins 42 fosses communes qui ont été identifiées par les Nations Unies, dont la majorité serait libre de l'armée congolaise. Environ 1,3 million de personnes ont été déplacées, et plus que partout ailleurs dans le monde pendant la même période. Il y a plus de 30 000 qui se sont réfugiés en Angola. Plus de 600 écoles ont été attaquées et détruites et plus de 1,5 million d'enfants en sont affectés. Donc la violence dans la région au Kasaï est à une échelle, une ampleur vraiment horrifique et le caractère de cette violence est aussi très alarmant et horrifique. Des membres des forces de sécurité congolaises se sont rendus directement responsables de nombreuses de ces violations des droits humains et de ces attaques en utilisant très souvent un usage excessif de la force, tuant des centaines de supposés membres et sympathisants de Kamini Antsako, un grand nombre de femmes et d'enfants, souvent qui ne sont pas armés ou qui sont légèrement armés. On a documenté aussi des opérations de porte à porte par des militaires congolais où ils ont tué les personnes qu'ils ont trouvées à l'intérieur, qu'ils ont accusées d'être des sympathisants de Kamini Antsako juste au cause de leur village, de leur ethnie. Donc c'est vraiment une situation catastrophique et c'est depuis août que cette violence continue. Et jusqu'à là, les autorités congolaises n'ont pas du tout montré de capacité ni une volonté de mettre fin au carnage et toute la violence, ni de faire des enquêtes crédibles ou transparentes et d'admettre les responsables en justice. Donc pour nous, c'est absolument nécessaire que la communauté internationale et le Conseil des droits de l'homme mettent en place une enquête indépendante et internationale pour enquêter sur ce qui se passe, identifier les auteurs et les commanditaires et créer une base pour que les auteurs puissent être traduits en justice.
Madame
et nous espérons aussi que si cette commission d'enquête soit mise en place, ça peut aussi avoir un effet dissuasif pour essayer d'empêcher d'autres attaques horrifiques dans la zone.
Oui, Madame Hilda, est-ce que Human Rights Watch détient aussi les informations selon lesquelles le gouvernement congolais a mis en place et est en train d'armer, n'est-ce pas, une milice qu'on appellerait Banamura et qui commet des exactions contre la population Lulua et Luba?
Oui, donc selon nos partenaires sur place, des activistes locaux, on a aussi recruté des informations sur des attaques très récemment commises par cette milice Bamamura. Il y avait juste donc la semaine dernière, nos partenaires ont parlé d'une attaque au village d'Indamayaya où environ 80 personnes auraient été tuées par cette milice Bamamura. Nos partenaires nous disent aussi que donc, dernièrement, la situation sur le terrain est devenue beaucoup plus complexe avec une prolifération de groupes armés. Donc ce n'est pas seulement une groupe de communes interpôt, mais plusieurs groupes dont quelques-uns sont soutenus, armés ou manipulés par des acteurs politiques ou des officiers des forces de sécurité. Donc la situation est énormément complexe et c'est en partie pour cela qu'on pense que c'est absolument nécessaire qu'il y ait cette enquête internationale.
Oui, Madame Hilda, vous insistez beaucoup sur l'enquête internationale, mais est-ce que le porte-parole du gouvernement n'a-t-il pas raison lorsqu'il affirme qu'il est inconcevable, parce que là il évoque l'existence de cette... il réagit, n'est-ce pas, aux accusations par rapport à cette milice Banamoura. Il dit qu'il est inconcevable qu'un gouvernement qui dispose d'une armée et d'une police puisse organiser une milice pour mater une rébellion.
Donc malheureusement, ce ne serait pas la première fois en RD Congo où on a vu que l'armée congolaise ou les acteurs politiques ont soutenu des groupes armés. Donc il y a plusieurs groupes armés à l'est, donc au circuit au Kivu, qui ont aussi le soutien, qui ont collaboré, qui ont mené des opérations conjointes avec des groupes armés, des groupes Maïmaï et d'autres qui ont aussi attaquer la population civile. Et comme je disais, un grand nombre de violations dans la région de Kasaï ont été commises par les militaires de l'armée congolaise. Donc ce n'est pas difficile à croire que c'est possible que ces mêmes militaires peuvent entraîner et former des milices qui attaquent aussi la population.
Oui, madame, je l'ai dit tantôt, vous avez insisté sur la mise en place de cette enquête internationale. Et le gouvernement congolais s'est dit prêt à une enquête conjointe. Il y a même la ministre des Droits humains qui a affirmé que certaines des forces communes repérées par l'ONU sont vides. Et elle précise que l'ouverture de ces forces a été, n'est-ce pas, faite devant témoins. Et que ce sont les équipes de l'ONU qui traînent les pas pour enquêter. Pourquoi l'ONU ne veut pas enquêter?
Donc, malheureusement, c'est depuis août que le haut-commissaire a insisté sur la nécessité d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur la violence au Kasaï. Mais lors de la dernière session du Conseil des droits de l'homme, la ministre des droits humains congolaise, Elle a dit qu'elle puisse accepter le soutien des Nations Unies et de l'Union africaine dans l'enquête congolaise et que le gouvernement est prêt à collaborer avec les Nations Unies. Mais malheureusement, trois mois plus tard, l'enquête congolaise, donc le gouvernement congolais n'a pas accepté l'assistance des Nations Unies, du Bureau conjoint des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas une collaboration crédible et transparente. Et l'enquête que les autorités congolaises disent qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas du tout dans une manière crédible ou transparente. Et il n'y a pas ce soutien des Nations Unies. Donc, c'est pour ça. Donc, les Nations Unies ont donné l'opportunité au gouvernement congolais de faire une enquête crédible avec le soutien, mais ils ont montré que cette volonté politique n'existe pas. Donc, on ne peut pas continuer d'attendre et attendre. Donc, si on veut une enquête, il faut que ça soit mis en place. Déjà, il y a des informations que donc les preuves sont en train de disparaître, les militaires sont en train de désenterrer les fosses communes pour essayer de cacher les traces, les preuves. Donc, on ne peut plus attendre et on pense que cette enquête est vraiment nécessaire maintenant.
Merci Timothée Tchaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme accuse les autorités congolaises d'entretenir une milice. Le gouvernement réplique en disant qu'il est inconcevable qu'un gouvernement qui dispose d'une armée et d'une police puisse organiser une milice pour mater une rébellion. Comment vous analysez ces différentes déclarations?
Merci une fois de plus à la Yaroung, je dis Guy Maté, excusez-moi. pour cette intervention, pour cette question très importante. Le problème, c'est que ça dénote des malaises au niveau des institutions congolaises et la communauté internationale. Lorsqu'il faut parler des Nations Unies, c'est l'ensemble de la communauté internationale. Mais lorsqu'on se jette des déclarations comme ça sur les vies humaines, ça dénote ostensiblement qu'il y a un souci important. Mais là, je voudrais, pour comprendre cette situation, il faut voir à quel jeu le régime de Kinshasa joue. Pour comprendre ces jeux-là, il faut voir le tableau sur le plan international, où en sommes-nous. Actuellement, on parle de terrorisme sur le plan international. Je vous parle de la France, la Syrie, la Belgique aujourd'hui, chez nous, ça a été frappé, à Namur, là où je suis. Et vous avez le terrorisme idéologique, Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda, El-Shabaab, etc. Mais vous avez aussi la forme de terrorisme d'État. Là où vous avez d'une part des États qui financent des organisations terroristes, vous avez l'exemple du Qatar hein, qui s'isole dans le monde arabe, etc., par rapport au fait que le Qatar, il y a des preuves que le Qatar finance des institutions internationales qui sont terroristes, mais vous avez aussi la forme des États qui créent des milices pour des fins politiques. Vous avez le cas, par exemple, en Somalie, vous avez le cas au Burundi avec les Imbonerakure. Vous avez au Congo plusieurs... vous prenez le rapport, le premier rapport du Sénat congolais, je crois 2008, a démonté, il a soulevé la participation de beaucoup d'officiers et même des acteurs politiques qui financent les groupes armés. Et donc ce n'est pas la première fois qu'on retrouve, à travers le cas de la RDC, que des acteurs politiques, même des officiers, des officiels, même d'autres... acteurs, je dis, de la société civile, mais aussi des opérateurs économiques qui financent des organisations terroristes. Et finalement, lorsque vous voyez, lorsqu'il y a dialogue, Amman 1, Amman 2 ou d'autres processus d'intégration, ces groupes qui étaient hier des milices arrivent à être de la majorité présidentielle. Et c'est ce qui tique. Et lorsque le porte-parole dit que c'est inconcevable, normalement, nous disons que c'est concevable, parce que on l'a vu à travers le monde, j'ai parlé du Burundi, mais à Kinshasa en 2011, même en 2006, lorsqu'il y a eu des élections, on a vu au niveau de la jeunesse, de la majorité présidentielle, des jeunes qui étaient armés à Kinshasa. On connaît un jeune du quartier qui est un civil, mais il se promène au moment des élections avec des armes. On connaît cette situation. À Lodja, on vous parle d'une écurie Ngelo, mais qui massacre les gens la journée, la nuit, qui brûle, qui fait souci à des fins politiques. Donc c'est concevable. Cette forme de terrorisme, c'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. C'est un terrorisme d'État où soit l'État finance des organisations terroristes qui sont nationales ou internationales, soit c'est l'État qui organise des milices. Et il faut revenir dans le cas de Moura. Alors j'ai vu notre ami de la majorité qui essaie d'expliquer. Voilà, soit que les Moura sont bel et bien, je connais bien que c'est un endroit où on forme la garde républicaine, soit que c'est les Moura qui commettent les crimes tels que nous le constatons dans les Grands Kassai, soit la milice qui est au service du pouvoir, parce que ce que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déclare ici est une affirmation, et si cette organisation fait une affirmation, ça veut dire tout simplement que tout est documenté et qu'il y a des preuves. Lorsque vous interrogez la population du Kassai, du Grand Kassai, lorsque vous interrogez les réfugiés qui sont en Angola, et dans ma page Facebook, j'avais même signalé il y a 10 mois la présence de la milice de Gédéon dans le Kassai. Et je me suis posé la question, est-ce que Gédéon du Kassai devient faiseur de paix dans le dans le Grand Kassai? Et c'est toutes ces questions-là qui font aujourd'hui la situation est plausible. La situation est plausible. Je conclue par là. Oui,
vous dites que lorsque cette structure, n'est-ce pas, fait des affirmations, c'est que cela est documenté et qu'il y aurait des preuves. Le haut commissaire des Nations Unies se réfère aux témoignages des civils qui fuient les exactions au Kassai. Mais comment vous comprenez le fait que dans ses propos, il utilise le conditionnel? Il dit ses ministres...
Oui, mais il utilise le conditionnel... Oui, il utilise le conditionnel, c'est une forme dans la dans la rédaction, c'est une forme qui dénote de la lucidité même des questions. Parce que les conditionnels sont utilisés dans le langage judiciaire parce que les personnes qui sont accusées sont au départ innocentes jusqu'à ce que la culpabilité soit établie. C'est pour ça que toute personne est présumée innocente. Dans le cas d'espèce, c'est la République démocratique du Congo, les dirigeants du régime de Kinshasa. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Si les affirmations, même au conditionnel, du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme portent contre le gouvernement, si le gouvernement ne se sent pas coupable, question tout simplement d'ouvrir qu'il y ait une enquête internationale. Cela va dissiper tous les doutes. Ce sera la question. Mais le fait, vous vous rappelez, et c'est même par là que je voulais conclure au départ, vous vous rappelez lorsque la situation a explosé dans le Kasaï. La première des choses, la MONUSCO voulait se rendre sur le terrain. Le gouvernement, à travers le porte-parole, a dit « Non, 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 vous ne pouvez pas vous rendre dans la zone opérationnelle. » C'est quoi ça? On remarque vous, nous avons vu les Nations Unies, et je dis la MONUSCO, les casquets bleus, avec l'armée, mener des opérations militaires conjointes. Qu'est-ce qui fait que dans le cas du Kasaï, on refuse à la même MONUSCO d'intervenir? Et non seulement qu'on refuse la MONUSCO d'intervenir, on refuse une enquête internationale. Pour quelles raisons? Ça veut dire qu'on a des choses à cacher. Et donc c'est pour cette raison, il a la soulevé, cette enquête devient plus qu'urgente pour que les vérités soient dénichées.
Merci.
Mais un petit élément que je voulais ajouter pour finir,
rapidement.
C'est que dans le Kasaï, il n'y a pas que le Lulua et le Luba. Vous avez tous les Bapende, vous avez tous les Basongue, les Bakwachimu, les Bakwamputu, et il y a tout le monde. Donc,
merci,
dans
le
Kasaï, c'est tout le monde qui est dedans.
Merci. Merci, Maître Mandiolo. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Mbandaka.
Junior Bompongo, depuis Mbanda, province de l'Équateur. L'accusation faite par les Nations Unies n'est qu'une sonnette d'alarme pour lequel la province du Kasaï vit dans une situation de catastrophe humanitaire. D'où les autorités congolaises ne peuvent en aucun cas souligner l'authenticité du rapport révélé par le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies, car jusqu'à la preuve du contraire, aucun rapport contradictoire n'a été révélé.
Maître Mandiolo, j'ajoute cette réaction. C'est Théodore Toumba depuis Kinshasa. Il est vrai que les peuples Tshoko et Pende ont été soutenus par les autorités locales dans leur démarche visant à éliminer physiquement les peuples Luba et Lulua. Les silences des autorités tant locales que nationales expliqueraient leur complicité dans cette affaire.
Je ne sais pas. Sincèrement, je suis un peu perdu dans tout ça, parce qu'il y a un flot d'informations les unes des autres contradictoires. On nous dit ici que si jamais... pour revenir au sujet principal, si jamais le haut commissaire des Nations Unies déclare quelque chose, c'est vrai qu'il s'est documenté. Il me semble qu'on a pu déclarer les mêmes choses en ce qui concerne l'Irak, qui était très documenté, on connaît la suite et la fausseté. Il me semble qu'on a déclaré la même chose pour les Koweït, on connaît la suite et la fausseté. Il me semble qu'on a déclaré la même chose pour Timișoara, en Roumanie, avec des fausses communes et tout ça, et c'était faux. Voyez-vous, on a une jurisprudence qui a causé tellement de morts sur la planète qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, je vous ai dit que, et là j'entends dire que bon, la MONUSCO n'est pas au Kasaï. La MONUSCO est installée depuis des années au Kasaï. Elle est sur place à Kananga et elle a des antennes quasiment sur tous les territoires kasaïens. Dire ça sincèrement, c'est pas correct. On ne peut pas commencer à employer les mensonges pour pouvoir soutenir une cause, même si elle est valable. Ça ne tient pas la route. Et ce que Mme Sawyer essaie de dire, et chaque fois, elle s'est rattrapée en disant « c'est complexe, c'est complexe, c'est complexe ». Elle n'a pas dit, elle n'a pas fait une simple affirmation. Elle a dit chaque fois que c'est complexe, c'est complexe. Lorsqu'elle cite les fausses communes et tout ça, ce sont le même nombre de fausses communes que le gouvernement a cité. Et avec la possibilité pour les uns et les autres d'aller sur le terrain. Lorsqu'on doit faire une...
Et pour lesquels on a fait disparaître les éléments des preuves.
Oui, mais je ne sais pas quel est ce mécanisme-là. Là, il faut encore vérifier. Je ne suis pas en train d'affirmer quelque chose ou d'infirmer quelque chose. Il appartient à ceux qui feront des enquêtes pour vérifier, oui ou non, s'il y a eu disparition des corps ou pas. Donc ça, c'est pas assez sadiste qu'on peut déjà commencer à justifier, à accuser. Les réquisitoires internationaux est connu. On sait pourquoi il y a ces réquisitoires internationaux. Cette tutelle réclamée à Corée et à CRI pour gérer la RDC est connue. Mais lorsqu'on doit venir en RDC avec des prétentions de cette nature-là, mais plutôt fantaisistes, il faut un peu s'armer. Parce que, habituellement, Mme Sawyer,
ne se retient pas pour attaquer. Mais aujourd'hui, il vous dit c'est complexe.
Oui, Maître Mangiolo, vous n'êtes pas d'avis que la situation est en train de prendre les allures d'un conflit interethnique entre d'un côté les peines des Tchokwe et de l'autre les Luba et les Lulua?
Non.
Ça a été dénoncé plusieurs fois par les ONG de défense des droits de l'homme.
Mais ça s'est passé où exactement?
Dans l'espace kassaïen.
Non, ce n'est pas l'espace kassaïen en général. Les Tchoko et les Lunda ne sont pas forcément dans les Sankuru, qui fait partie de l'espace kassaï. Ils ne sont pas à Luisa, qui fait partie de l'espace kassaï. Ils ne sont pas à Kananga. Non, ça c'est dans les périmètres de Tchikapa.
Et vous n'avez jamais entendu parler de ces phénomènes?
Bien entendu, j'ai entendu parler de ces phénomènes, puisque les gens de Luisa aussi, qui sont les Lualua, les Salampasu, ont été aussi attaqués par ces tribus-là au niveau de Tchikapa. Il s'agit de Tchikapa, rien que Tchikapa. Il ne faut pas élargir ça à tout l'espace kassaï. Où se trouvent les Tchoko et les Lunda et les Pende? Les Tchoko et les Pende se trouvent à Tchikapa, s'il vous plaît. C'est pas tout l'espace kassaïen. D'accord? Donc, lorsqu'on doit dire les choses, essayez d'y aller avec une petite justesse, avec des éléments crédibles. Lorsque les éléments ne sont pas crédibles à cette hauteur-là, on voit déjà la forfaiture. Donc, ça noie tout, y compris ce qui pouvait être essentiel.
Madolo, vous avez suivi M. Timothée Soucha qui a distingué le terrorisme idéologique et le terrorisme d'État, et dans les cas d'espèce, il estime que c'est un terrorisme d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos?
Vous savez, lorsque monsieur parle de tout ça, c'est vrai qu'il y a une démarche intellectuelle et universitaire qui est derrière ça. Je suis un praticien. Au-delà, après l'université, je suis un praticien. Quand vous citez la plupart des milices qui avaient été citées dans l'espace est du pays, on les connaît. Les hommes politiques qui ont soutenu ces milices-là, on les connaît, ils ont été dénoncés. C'est une réalité. Est-ce que ces milices-là faisaient partie de l'armée? Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On a eu des situations particulières dans cet espace-là et tout ça. On a fait la paix des braves avec certaines rébellions qui sont revenus au bon sentiment, qui sont rentrés dans les règles de la République. Est-ce qu'on doit dénoncer ça ad vitam aeternam? Ça a déjà été dénoncé, il y a des gens qui avaient été poursuivis. Donc voyez-vous, il faut faire attention avec ce qu'on présente comme argument.
Merci Madame Hilda Sayer. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Katama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. La problématique des milices en RDC, il y a à boire et à manger. Et il y a des questions qui demeurent sans réponse aujourd'hui face à un gouvernement incapable d'étouffer ces phénomènes qui se portent bien en RDC. C'est fort possible que le gouvernement congolais crée ces gens de milices vu la faiblesse de ses services de sécurité. Et lorsque l'ONU accuse les autorités congolaises d'être impliquées dans le massacre des civils au Kassai, quel est le rôle de la MONUSCO ici? Et où étaient ces casques bleus? Je crois que c'est une accusation de trop. Le peuple congolais est fatigué par des accusations et condamnations de l'ONU. Nous voulons des actions concrètes.
Oui, Madame Ida.
Oui, donc je suis tout à fait d'accord que c'est des massacres de trop et on a besoin des actions concrètes pour mettre fin finalement à toutes ces graves violations des droits humains. Et je crois que donc l'enquête internationale proposée par au commissaire et qui est discuté au niveau de Conseil des droits de l'homme cette semaine serait quelque chose de concret qui pourrait aider à mettre fin à cette violence et à mener la justice. Et je voudrais aussi répondre à ce que M. Mangiolo vient de dire. Je crois que pour dire que la situation est complexe n'exclut pas le fait qu'il y a des faits catastrophiques qui sont connus. On sait qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes tuées. On sait qu'il y a plus de 600 écoles attaquées et détruites. On sait qu'il y a plus de 1,3 million de personnes qui ont été forcées de fuir. On sait bien que des militaires de l'armée congolaise ont utilisé une force excessive. Il y a même des attaques qui ont été capturées par vision montrant les militaires tuant des femmes et des enfants dans cette violence au passage. Donc, il y a des faits qui sont connus, mais oui, c'est complexe aussi. Et je crois que si le gouvernement veut vraiment connaître la vérité, veut qu'il y a la paix restaurée dans cette zone, pourquoi pas accepter cette enquête internationale? Comme Timothée a dit, donc, s'ils n'ont rien à cacher, laisser cette enquête internationale pour essayer de chercher la lumière, toute la lumière sur cette situation qui est très complexe et aussi très catastrophique pour la population. Et je crois que les Kassaïens le méritent, donc c'est le moindre des choses pour faire, pour essayer de mettre fin à toute cette violence.
Oui, madame, vous avez affirmé que vous avez documenté, n'est-ce pas, les différentes exactions. Vous avez suivi la réaction de Maître Mangiolo, qui a rappelé l'Irak, le Koweït ainsi que la Roumanie. Des personnalités avaient affirmé à l'époque qu'ils avaient documenté, n'est-ce pas, certaines informations concernant ces différents pays. Mais après, on s'est rendu compte que c'était des informations qui n'étaient pas fondées.
Donc, je ne connais pas les rapports exacts dont il parle, mais je crois qu'au Congo, les rapports que le Bureau conjoint des droits de l'homme et le haut commissaire ont fait depuis plusieurs années sont très crédibles, et il y a aussi plusieurs autres organisations, dont Human Rights Watch, qui vont documenter les mêmes faits, et qui étaient aussi dans des attaques qui ont été enquêtées par la justice par la suite. Donc je crois jusque là il n'y a rien qui montre que ces rapports de haut commissaire ne sont pas crédibles. Je pense tout au contraire, c'est des allégations qu'on doit nécessairement prendre au sérieux.
Oui, Monsieur Timothée Soucha, il y a une question qui a fait une série de questions, n'est-ce pas, qui vous sont adressées. Ça vient de Bukavu au sud Kivu.
Fikiri Chumba de Bukavu au sud Kivu. La réaction du gouvernement congolais est non seulement irresponsable, mais aussi elle énerve. Je me demande où était cette armée pour qu'on arrive là. Il ne suffit pas de dire qu'un pays qui a l'armée et la police ne peut pas recourir à une ville pour marquer une rébellion. Il faut plutôt prouver la capacité sur le terrain. L'armée congolaise a prouvé son incapacité et les manquements graves au Kasaï. En outre, cette accusation de l'ONU est de trop. Les peuples congolais ne se retrouvent dans le jeu de ping-pong entre l'ONU et l'État congolais. À mon avis, il n'y a une commission indépendante qui peut nous dire avec exactitude qui a fait quoi au Kasaï. Donc le gouvernement a intérêt en laissant la commission mener ses enquêtes sans interférence. Dans le cas contraire, il sera en train de cacher la vie.
Timothée Soucha.
Oui, pour l'auditeur, il y a deux parties dans son intervention. Il y a d'abord l'irresponsabilité dans le chef du gouvernement à travers les déclarations du porte-parole du gouvernement, que je confirme, hein, parce que même pour balayer ce que parlait Maître Mangiolo tantôt, que c'est inconcevable, c'est concevable, parce que pouvez-vous me dire aujourd'hui quels sont les éléments qui peuvent faire provoquer les évasions dans la prison la plus protégée de la RDC, à Makala, et qu'il n'y a même pas un seul arrêté? Quelqu'un peut me dire comment on peut à Beni faire l'évasion d'autant 960-930 prisonniers au milieu de camps militaires? Quelqu'un peut me dire à gauche, à droite, il y a eu des évasions? C'est la même milice qui a été formée, il y a des sources indépendantes qui le confirment, qui est en train d'opérer à des fins politiques. La deuxième intervention de l'intervenant, c'est que l'intervenant interpelle les Nations Unies pour qu'on reste pas dans les résolutions, dans les enquêtes, que l'on aille un peu plus loin. Parce que Maître Mangiolo est un avocat, un praticien de droit. Vous savez, vous êtes père de famille, vous avez le droit chez vous d'administrer la famille en bon père de famille, comme on dit. Mais vous avez des droits et des devoirs, mais aussi des obligations. Lorsque vous faillissez à ces droits et à ces obligations, je veux dire à devoirs et obligations, il arrive que le tiers, que l'État puisse intervenir pour faire ce qu'on appelle la perquisition, si c'est le cas. Alors, dans le cas d'espèce, si la République démocratique du Congo, et l'auditeur l'a très bien dit, a échoué parce que c'est ostensible à sécuriser la population, parce qu'il y a des milices à gauche, à droite, parce que c'est l'armée et la police qui commettent des exactions. Et si cette situation perdure, ça sera une obligation à la communauté internationale, à travers toutes les institutions des Nations Unies, à faire ce qu'on appelle une perquisition, afin que l'on puisse protéger la population congolaise. Nous reviendrons dans ce débat prochainement. Par ailleurs, Maître Mangiolo doit savoir que personne, que ce soit Ida ou moi, nous n'avons pas dit que les Nations Unies, la MONUSCO n'est pas à Kananga. Non. nous avons dit, moi j'ai personnellement dit que les Nations Unies, la MONUSCO, a été interdite d'accès à Chimbulu et dans le royaume de Kamanasapu, là où le gouvernement congolais a qualifié de la zone opérationnelle. Je disais cela par contraste au fait que la même brigade des Nations Unies au Congo a toujours mené des actions conjointes, des actions militaires au nord Kivu, au nord et au sud Kivu, et même dans le Katanga. C'est cela. Donc, cette situation est une situation qui contraste avec la réalité et il ne faut pas qu'on déplace les débats dans la situation en Irak ou ailleurs parce que le débat sera long. Non loin de chez nous, au Burundi, vous avez les Imbonerakure qui sont en train de semer la pagaille, mais qui sont de l'ethnie Hutu. Tutsi ensemble et géré par le président du Burundi. Donc oui, il y a des exemples que... comme ça qui, dans le temps et l'espace, oui.
Oui, vous avez évoqué le terrorisme d'État. Vous êtes expert en prévention et résolution des conflits. Dans les opérations consistant plutôt à réprimer une rébellion, il arrive des moments où certains États, n'est-ce pas, du monde, mettent à profit les forces supplétives d'une armée. Et dans le cas d'espèce, les Banamura ne seraient-ils pas une force supplétive de l'armée congolaise?
Oui, mais mais c'est pour ça que j'avais dit lorsque si nous partons par Banamura comme unité de la garde républicaine, c'est la même Banamura qui, ostensiblement, a massacré les populations à Kinshasa chaque fois qu'il y a contestation des élections. Cette même appellation Banamura s'identifie à l'RTNI, à cette unité. Et donc, ici, puis-je comprendre que les Nations Unies, à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qualifie la garde républicaine d'une milice, ce qui peut être le cas au regard des atrocités, au regard du comportement de cette unité à Kinshasa, c'est documenté, tout le monde l'a vu, ou alors on doit identifier, si ce n'est pas le cas, que c'est la garde républicaine, les Banamura, comme on dit, n'est pas cette milice, donc on doit accepter qu'il y ait une enquête internationale indépendante, c'est-à-dire indépendante du gouvernement congolais et indépendante de l'accusateur qu'est le Haut Commissariat pour que nous ayons la vérité sur l'identité de cette milice. Dans un passé récent, oui.
Et qu'est-ce qu'il faut pour pacifier l'espace kassaïen? Vous insistez sur la mise en place de cette enquête indépendante internationale. Vous pensez que le seul fait de mettre en place cette enquête pourrait suffire pour pacifier le Grand Kassaï?
Oui. De l'enquête, il y aura des conclusions. Des conclusions, il y aura des mesures que tous nous devons suivre pour qu'il y ait application, c'est-à-dire établissement de vérité, de responsabilité, et que ceux qui sont des coupables puissent répondre de leurs actes. Et c'est cela, parce que l'État congolais et les institutions de la République ne présentent plus la recette pour apporter solution aux problèmes qu'il crée lui-même. Les régimes créent des problèmes. Je ne vois pas le même régime qui met le feu devenir sapeur-pompier. Ce sera difficile.
Nous sommes à la fin de l'émission. Un mot en guise de conclusion.
Il y a malaise au sein des institutions congolaises par rapport à la communauté internationale sur les crimes et exactions commises sur les populations que le gouvernement ne fait plus protéger. Il revient à la communauté internationale à travers toutes les institutions de prendre la relève pour qu'il y ait effectivement des sanctions, mais aussi partant des enquêtes, des mesures et la Cour pénale internationale d'intervenir.
Merci, Maître Mandjolo. En conclusion, que faut-il pour pacifier cet espace de Kassaï?
Premièrement, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on ne reconnaît pas qu'il y a des problèmes dans l'espace Kassaï, parce que moi-même je suis victime de ces problèmes-là et tout ça, ce qui fait qu'on reconnaît le problème vis-à-vis notamment des milices criminelles et vis-à-vis de certains membres de l'armée.
Et aujourd'hui, la solution, c'est quoi?
La solution aujourd'hui, c'est un...
Parce que les populations ont envie, n'est-ce pas, de vivre en paix dans cette partie du pays.
Le secteur militaire organisé aujourd'hui est opérationnel. Et que nous sommes en train d'attendre l'évolution de ce secteur militaire, là, ce qui se passe actuellement, selon ce qui avait été décidé par les chefs de l'État. Nous sommes en train d'avancer. Mais nous pensons effectivement qu'il est possible d'accepter cette enquête internationale, mais accompagnée de la RDC, c'est tout à fait ouvert.
Merci, Madame Hilda. Un mot en guise de conclusion.
Oui. Merci. Donc, je voudrais situer ce qui se passe au Kassai dans un contexte d'impunité à travers le pays pour de graves violations des droits humains. Pas mal de militaires et des officiers de l'armée congolaise qui sont déployés aujourd'hui au Kassai.
Merci, madame.
Ont été impliqués dans des massacres et d'autres graves violations des droits de l'homme à l'Est. Donc, je crois aujourd'hui,
merci,
si on
madame,
peut assurer
merci.
La justice, c'est le crime commis au Kassai.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonsoir du programme sur Radio Capi.